Tunéval. Quand on a couru beaucoup, et dans tous les sens, cet univers si vaste sur les cartes, en réalité si petit, on ne devrait s'étonner d'aucune rencontre. Par quelques points, tout le monde touche à tout le monde, et tout le monde aujourd'hui va partout. Le subtil romancier italien Luigi Gualdo appelle quelque part du terme plaisant « d'étoffe », cette trame du hasard qui fait s'entremêler et s'entrecroiser, comme un fil d'une nuance au fil de la nuance contraire, des destinées follement contrastées. On sait cela, et si habitué soit-on aux fantaisies de cette étoffe cosmopolite, plus bariolée que tous les tweeds et que tous les haris d'Écosse, on éprouve des surprises de badaud à rencontrer certaines personnes dans certains endroits, et à constater que leur présence dans ce cadre si différent du coutumier est plus naturelle encore que la nôtre. C'est par une surprise pareille que commença l'aventure dont le souvenir me hante aujourd'hui et que je voudrais conter, d'abord pour me donner la joie, peu consolante, de me rajeunir de presque 12 ans. Elle remonte au mois de juillet 1885. Puis elle appartient à une série d'impressions sur lesquelles demeure un peu de mystère, et qui, comportant deux sortes d'explications, une naturelle, l'autre suprasensible, laisse la place à d'indéfinies songeries. À l'époque où je fus témoin de ces romanesques et pourtant très simples événements, ils me parurent en effet très simples, quoique exceptionnels. Aujourd'hui que j'ai vieilli et que je marche environné des fantômes de tant d'amis pour toujours en aller, j'aime à chercher dans cet épisode une vague preuve qu'il y a, entre les choses visibles et les autres, entre les vivants et les morts, un échange possible de pensée et d'influence, un autre lien que celui de l'impuissant regret et de l'inutile mémoire, quitte à hausser les épaules devant ces hypothèses et à me répéter le mélancolique proverbe irlandais « There is hope from the sea, but no hope from the grave ». On peut tout attendre de la mer, on ne doit rien attendre du tombeau. Ce gracieux et tragique dicton des marins d'Irlande est d'autant plus de mise ici que cette aventure, puisque j'ai donné ce nom à cette anecdote d'un ordre tout sentimental, eut précisément pour théâtre un coin reculé de cette belle île, peu visitée par mes compatriotes et qui mériterait tant de l'être beaucoup. Au mois de juillet dont je parle, je venais d'y débarquer pour la seconde fois. Elle m'avait tellement plu lors d'un premier séjour que, n'ayant rien à faire de mon été, j'avais eu l'idée d'y revenir pour me caresser de nouveau les yeux à la profonde verdure de ces paysages, avec des fleuves qui roulent une eau transparente et noire, avec des lacs cernés de montagnes boisées et parsemées d'îles, avec de hautes falaises qu'emplit la lamentation des goélands, avec des ciels toujours voilés d'une vapeur molle où flotte le souffle tiède du Gulf Stream tout voisin, cette artère chaude du terrible Atlantique, avec enfin ce charme inexplicable d'une mélancolie sans analogue. Je ne sais quoi de pathétique semble envelopper cette pointe extrême de l'Europe, cette Ultima Thule, dont l'éloignement fabuleux troublait déjà le tendre Virgile, cette brumeuse oasis toujours disputée, terme fatal et sans au-delà, où vint échouer la marée des émigrations de l'Est, où se prolonge aujourd'hui encore une guerre de race dont nul ne prévoit la fin. Entre 1881, date de mon premier voyage, et cette seconde arrivée, cette guerre de race venait d'être marquée par son incident le plus terrible, l'assassinat de Lord Frederick Cavendish et de M. Burke, aux portes même de la capitale. Encore à présent, Si vous êtes étranger et si vous montez à Dublin sur un de ces cars d'un aspect fantastiquement pittoresque qui servent de fiacre, il y a beaucoup de chances pour que le cocher vous propose aussitôt, comme terme de promenade, la place de ce double meurtre, accompli en plein jour et dans l'allée la plus fréquentée du Phoenix Park, aux portes même de la ville. À cette époque, et presque au lendemain du drame, cette proposition était inévitable. C'était aussi la première que m'avait faite le premier cocher pris à la sortie de l'hôtel dès l'après-midi de mon débarquement. Et j'avais accepté. Si bien que, descendu de bateau depuis quelques heures, je me laissais conduire vers la scène d'un des plus hideux guet-apens de notre siècle. Je serai excusé de tous ceux qui connaissent cet admirable Phoenix Park, si vaste, si frais, si paisible. Et à travers les fûts de ces grands arbres, les montagnes de Wicklow sont si douces à regarder. Par cet après-midi lointaine de juillet, je me rappelle que la couleur du jour, d'un gris cendré, attendrissait encore ce verdoyant paysage. Des daims broutaient par troupeaux fauves, l'épais gazon nourri de pluie. Des jeunes gens, vêtus de flanelle blanche, jouaient patiemment au criquet parmi les vieux hêtres. Quel contraste avec les images qu'évoquaient les discours de mon cocher, un de ces étranges Irlandais des basses classes où l'on sent tout de suite le pire et l'excellent de ce sang celtique, si enthousiaste et si cruel, si aimable et si terrible. Son costume, déchiré par places, attestait son incurable désordre. Son teint couperosé décelait la meurtrière habitude du whisky. En même temps, ses attentions pour moi, son offre de sa couverture, s'il pleuvait, son soin à disposer le coussin pour caler mon inexpérience sur la banquette longitudinale où j'étais, suivant la coutume, assis de côté, dos à dos avec lui, sa loquacité complaisante, son soin de son cheval qu'il appelait familièrement « Ah oui », tout révélait une nature essentiellement sociable et cette excitabilité de sympathie propre à la race. Je le sentais familier, spirituel, cordial, et qu'avec cela il aurait si aisément pris part lui-même à l'assassinat qu'il me racontait. « Oui, votre honneur, » me disait-il, « Monsieur Burke et Lord Frédéric faisaient leur promenade du soir. Le parc est si charmant pour cela. C'est le plus beau du royaume, vous savez. » Et avec un rire gai, « J'aime beaucoup y aller, moi aussi, par des temps comme celui-ci, pour réparer ma santé et ma bourse. To repair my health and to repair my purse. » Et il fallait voir son clignement d'yeux pour débiter cet invite au pourboire. Puis, reprenons son récit. Deux cars s'arrêtent, plusieurs hommes en descendent qui se jettent sur Monsieur Burke. Ce n'était pas à Lord Frédéric qu'on en avait. Pourquoi ne s'est-il pas sauvé? On l'aurait laissé échapper. Il a voulu défendre son compagnon. Alors on l'a tué aussi, naturellement. On a retrouvé Monsieur Burke percé de 11 coups de couteau. Quant aux hommes, ils avaient déjà disparu. Tenez, voici la place, là où vous voyez ces deux croix creusées dans la terre. J'étais descendu de voiture pour regarder de près ce farouche monument d'un si farouche attentat, lorsque je m'entendis interpeller par mon nom, en français, et, relevant la tête, j'éprouvai ce saisissement de badaud dont je parlais au début de ce récit. Avoir, juché sur un car, pareil au mien, un jeune homme rencontré à Paris, tantôt dans le monde, tantôt au cercle, un certain comte de Corcieux. Une jeune femme était assise à côté de lui sur la banquette. Je savais que ce garçon s'était marié vers la fin de l'hiver précédent. Il était donc trop naturel qu'il eût voulu, docile à la mode des jeunes ménages modernes, si volontiers voyageur, montrer l'Angleterre à sa femme, et tout aussi naturel qu'ils eussent poussé une pointe en Irlande. Sur le moment, je ne raisonnais pas ainsi, et je demeurais stupide, comme on disait dans la tragédie classique. devant cette apparition en plein Phoenix Park d'un oisif français pour qui l'Ultima Thule devait être Nice et Monte-Carlo au midi, Deauville et Dieppe au nord, et à l'est, Carlsbad peut-être, et peut-être Saint-Moritz. Lui cependant voyait ma surprise, et il en riait gaiement, du rire gai qu'il tient de sa mère, cette jolie Pauline de Corcieux, dont la chronique scandaleuse a trop parlé. Maxime a hérité d'elle encore ses yeux bleus, ses dents petites et séparées, sa voix qui zaisait un peu, son teint rose et la nuance blond pâle de ses cheveux. Ces petits signes d'effémination corrigent en lui la ressemblance trop marquée avec son père, un de ces gentilshommes d'une laideur tourmentée et frappante, mais où il y a de la race. Ce fils d'un homme très laid se trouve rappeler cette laideur d'une façon singulière et donner lui-même l'idée d'un très gracieux et très élégant cavalier. Maxime avait alors 25 ans. L'on eût dit le frère à peine aîné de sa toute jeune femme, blonde et rose elle aussi avec de beaux yeux bleus et un rire enfantin, que je voyais se serrer contre lui sur la banquette trop étroite, et ses deux jolies poupées parisiennes, visiblement habillées, lingées, chapeautées, bottées par les meilleurs faiseurs de la rue de la Paix, formaient vraiment, sur ce car et dans cet endroit, le groupe le plus inattendu et le plus falot à côté de leur cocher irlandais, aussi tanné par l'alcool, aussi loqueteux dans son complet jaunâtre, aussi jovial que le mien, et aussi sauvage d'aspect. Eux-mêmes, le mari et la femme, avaient conscience du paradoxe que représentait leur seule présence sous les frênes séculaires de ce « bois de Boulogne » dublinois. Car ce fut le premier mot que me dit Maxime, avec son habituelle grâce d'accueil, celle de sa mère encore. Et cette grâce me fit lui pardonner d'être à ce degré le Français en voyage, toujours en révolte contre tout pays qui n'est pas la France, gouailleur, étourdi, ne comprenant rien aux choses qu'il voit et les regardant juste assez pour s'en moquer. Nous sommes-nous fait des ennemis par cette moquerie-là, dont les étrangers ne soupçonneront jamais combien elle est légère et inoffensive. « Ça vous étonne de me voir ici ?» commença-t-il. « Et moi donc ? C'est trop drôle ! Mais que je suis heureux de vous rencontrer ! Vous n'êtes jamais à Paris ! Et pourtant, quel diable de plaisir pouvez-vous bien trouver à venir dans des endroits comme celui-ci ? N'est-ce pas, Germaine ? Que je vous présente à Madame de Corcieux ?» Et la cérémonie faite, ces chemins de fer anglais où l'on vous enferme à clé comme des prisonniers, est-ce une horreur ? Et leur façon de vous prendre vos bagages, comme cela, sans rien pour les reconnaître, est-ce que c'est raisonnable ? Et ce Dublin, est-ce un trou ? Et ces voitures, mais où les ont-ils imaginées, ces voitures ? Un pays où il pleut toute la journée et pas un fiacre fermé. Un bon petit fiacre de la compagnie, tout simplement. Et cet accent. « Good morning, sir. » Et il prononça « morning » et « sir » à l'irlandaise. Il avait déjà remarqué cela. « Et cette cuisine, ces légumes surtout, pas une pincée de sel, pas une once de beurre, et cette saleté, ah, elle est propre, la verte hérin. J'espère que vous allez lui dire son fait dans quelques livres qui nous venge un peu de ce voyage. » « N'est-ce pas, Germaine ?»« Moi, c'est la toilette des femmes qui me paraît de la démence, » dit Madame de Corcieux. « Tenez, celle qui passe là, j'ai envie de sauter à bas de la voiture et d'aller lui crier « Mais rentrez donc vous habiller !» Avec ce ciel et cette fumée, quelle rage d'avoir sur soi des robes et des blouses de toile claire et des bottes de fleurs sur leur chapeau. Et puis tous ces enfants, pieds nus à même la boue. Nous en avons vu un qui s'en allait le long d'un trottoir, une paire de souliers à la main. N'est-ce pas, Max ? N'est-ce pas, Max ? N'est-ce pas, Germaine ? Ce jacassement de deux moineaux en train de piailler tour à tour et de se becqueter était d'autant plus comique qu'à travers ses remarques passaient des phrases dont la naïve ignorance était un châtiment involontaire de cet impertinent caquetage. Comme cette question qu'ils me posèrent tous deux à un moment. « Et pouvez-vous m'expliquer, dit le mari, pourquoi le cocher a tenu à nous mener ici pour nous faire voir l'endroit où fut assassiné un Sir Furke, Ruck, Burke ?» « Sir Burke, rectifia la jeune femme, et Lord Cavendish. » C'était le cas ou jamais de leur donner une leçon pour leur apprendre à ne pas trop rire d'une société dont ils ignoraient les plus élémentaires usages. Et je rectifiais la phrase en substituant dans ma réponse le simple « Monsieur Burke » au « Sir Burke » sans prénom et le « Lord Frédéric Cavendish » au « Lord tout court ». Ni l'un ni l'autre ne remarquèrent cette petite épigramme de mon pédantisme. Je voyais, à mesure que je leur racontais dans son détail cet épisode sinistre de la crise agraire, une véritable consternation envahir leur souriante physionomie. Ils se regardaient avec un effarement que je ne comprenais guère et qui me devint encore plus inexplicable quand je les entendis échanger ces quelques réflexions. « Comment ? Ces gaillards sont avec cela socialistes et anarchistes ?» dit Maxime. « On nous les avait tant donnés pour de bons catholiques, et même pour des cléricaux, » fit la jeune femme. « Voilà qui redouble mon envie d'en avoir fini avec notre vente, n'est-ce pas, Germaine ?» reprit le mari. « Le fait est qu'une propriété dans un pareil pays, » répondit-elle, « j'en ai froid dans le dos. » Et ses fines épaules nerveuses se crispèrent sous la pèlerine de son manteau de voyage. « Bon !» continua-t-elle en ouvrant son parapluie, dont le manche représentait une tête de bécasse en argent. « Des armes parlantes, songeais-je, fidèle, moi aussi, au grand défaut national du jugement inique et précipité. La pluie recommence. C'est la troisième averse de l'après-midi. Cette fois, nous rentrons, n'est-ce pas, Max ?» L'ondée, en effet, commençait de tomber, cinglante et rapide. Elle fouettait les fleurs des chapeaux et les robes de toile claire des promeneuses dublinoises, sans que celles-ci interrompissent leur marche vers le haut du parc. Elle imbibait d'eau les vestons déchirés des cochers, sans que ceux-ci parussent y prendre garde. J'étais déjà trop habituée aux brusques sautes de ce climat pour ne pas dire à mon homme de continuer, et je quittai les deux bécassos. C'est l'irrévérencieux surnom que je leur donnais mentalement. Non sans avoir reçu d'eux une invitation à dîner en leur compagnie, à leur hôtel, le soir même, et répondu « oui ». Ce manque de logique avait une raison. L'intense curiosité éveillée en moi par leur allusion de tout à l'heure à une propriété en Irlande et à une vente. « Propriétaire en Irlande ?» me répétai-je. « Ces petits corsieux ? Lui ou elle aura fait un héritage. Mais c'est tout de même bien inattendu. Et l'étoffe est par trop étoffée. » Oui, l'étoffe était très étoffée, et plus étrangement encore que je ne me l'imaginais. On en jugera par la simple transcription de la confidence que me fit Maxime à ce dîner, offert d'une façon si cordiale, accepté pour cet éternel motif d'inquisition morale, l'instinctive duplicité professionnelle de l'écrivain. Je nous revois, tous les trois, en reprenant le cahier de notes où j'ai conservé cette conversation, assis à une petite table de l'hôtel le plus élégant de Dublin. Nous avions devant nous, suivant l'immuable mode anglaise, des verres de toutes nuances, bleu, rose, vert, pour le claret, le porto, le vin du Rhin, et des fleurs, les fraîches fleurs, encore humides, de cette terre de brouillard, des giroflées, des géraniums, des pois de senteur parmi des fougères. Un essaim de garçons en habit, quel habit, tous allemands, allait et venait, distribuant les portions d'un menu rédigé en français. Quelle portion ? Quel menu et quel français ? à une cinquantaine de gentlemen et de ladies, tous et toutes en toilette du soir, et tous et toutes arrosés d'une même sauce noire, le saumon grillé, l'agneau rôti, le canard farci de sauge, et tous et toutes avaient des teints de revers de bottes, brûlés par le grand air, au point que le décolletage des femmes laissait voir une ligne de hâle tracée comme au pinceau. Et ils buvaient, qui du whisky mêlé de soda, qui du champagne brut sursaturé d'alcool, qui un cup aromatisé d'herbes odorantes, comme une tisane ou comme un baume, qui de la vulgaire limonade ou de la bière au gingembre. La petite comtesse de Corcieux, délicieuse en mauve, j'allais apprendre que c'était le demi-deuil forcé de l'héritière, avec ses diamants de nouvelle mariée à ses mignonnes oreilles, promenait sur cette diversité de breuvages des yeux épouvantés, dont l'expression horrifiée m'aurait amusé davantage si je n'avais été trop intéressée par la réponse de Maxime à ma question. « Vous avez parlé devant moi d'une vente que vous aviez l'intention de faire en Irlande. Vous y avez donc des biens ?»«
Pas grand-chose, » répondit-il.
« Une terre d'une centaine d'hectares, et depuis quelques mois. Mais c'est l'histoire de cette terre qui est drôle. Vous en feriez un roman, sans avoir rien à y changer que les noms. Vous savez, ou vous ne savez pas, que notre famille est originaire de Libourne. » Mon arrière-arrière-grand-père, ça remonte loin, vous voyez, était président au Parlement de Bordeaux. En 91, il émigra. Ce don bien lui prit, car 6 ou 7 de ses collègues furent guillotinés l'année suivante. Ne perdez pas la filière, elle est inattendue. Ce président de Corcieux avait de grands vignobles en Bordelais. Il faisait beaucoup d'affaires avec un négociant de Galway, en Irlande, qui fournissait de vin de Bordeaux toute l'île. C'est sur un bateau de ce négociant qu'il émigra. Le voilà donc qui débarque dans cette ville perdue, et sa première action est d'y devenir amoureux, à 50 ans, d'une jeune fille de 20, qu'il épouse. Elle s'appelait Mary O'Brien. J'ai cru jusqu'à ce jour que c'était la meilleure noblesse de l'île. Aujourd'hui, j'ai vu tant de fois ce nom sur des devantures de magasins que j'ai des doutes. Mais passons. J'oubliais d'ajouter qu'au moment de ce mariage, le président était veuf. Il avait un fils, mon arrière-grand-père, lequel servait, lui, dans l'armée des princes. De cette seconde femme, épousée en Irlande, l'émigré eut un autre fils, lequel eut lui-même un fils, en sorte qu'il y a eu un commencement de branche irlandaise des Corcieux, maintenant éteinte. Mais avant de vous dire dans quelles conditions j'ai hérité d'eux, il faut que je vous raconte le retour du président en France vers 1814. Le bonhomme apprend, au fond du comté de Galway, la chute de Bonaparte et la Restauration. Il remonte en bateau et arrive droit à Bordeaux, 23 ans après en être parti. Son premier soin est de se faire conduire en son hôtel à Libourne. C'était devenu la sous-préfecture. On le consigne à la porte, il se fâche, on le menace de la prison. Sa colère fut telle qu'il reprit la mer 15 jours plus tard, sur le même bateau qu'il avait amené, en prédisant la fin du monde. Il acheva ses jours dans un petit domaine au bord de la mer, en Irlande. Il l'avait acheté avec le produit de quelques diamants emportés en hâte et baptisés Neptuneval. Il y est mort à près de 90 ans et sans avoir jamais voulu revenir en France. Voilà ce que j'appelle un réactionnaire. « Et sans avoir jamais revu son fils ?» interrompit Madame de Corcieux. « Qui, de son côté, n'a jamais eu l'idée de rendre visite à son père en Irlande ?»
« Mais c'est très ancien régime, madame, ces rapports-là, » répondis-je.
« Il y a dans les mémoires du prince de Ligne une phrase dans ce goût-ci. « Mon père me détestait, je n'ai jamais su pourquoi, nous ne nous étions jamais vus. » « Moi, cette façon de comprendre la famille me fait horreur, » reprit-elle. « Et Max aurait bien dû commencer tout de suite par l'autre histoire, qui est si jolie. »
Si jolie, si jolie, fit le jeune homme.
J'avais déjà observé qu'il croyait de temps à autre devoir se donner en face de sa petite femme des airs de sceptique, de garçon déniaisé et qui sait la vie. Du moment qu'il s'agit d'amour, les femmes ont toutes les indulgences. Avec cela, que vous seriez contente plus tard que votre fils se conduisît comme cet autre héros, le héros de cette histoire si jolie. Jugez-en plutôt, continua-t-il en se tournant vers moi. Je vous ai dit que Neptune et Val avaient été achetés par le président sur son modeste trésor d'émigrés. Le bien nous est revenu après la mort de son petit-fils, le demi-cousin germain de mon grand-père, le général. Le général avait de sa femme, une bonne Ivée, trois enfants. Mon pauvre père, ma tante Lautrec, que vous connaissez, et mon oncle Jules, dont je vais vous parler. J'aurais dû le nommer le premier, car c'était l'aîné. Mon père me l'a souvent décrit comme un garçon très doux, très calme, plutôt timide, mais extrêmement entêté, aussi entêté que silencieux, avec un talent très réel pour les arts. Il chantait, paraît-il, à ravir, et il peignait un peu. Comme il était aussi très dévot et qu'il n'avait manifesté, ses études finies, aucun désir d'aucune carrière, on appréhendait qu'il n'entrât en religion. Et voici qu'un beau matin, il pouvait avoir 24 ans, il vient demander à son père l'autorisation d'épouser la gouvernante de ma tante Lautrec, une fille de rien, une orpheline, je crois, qui était dans la maison depuis 1 an et qui n'avait pour elle que d'assez beaux yeux et des manières plus comme il faut que la plupart de ses pareils. Vous pensez si le général l'a bien reçue, et surtout la générale. Bref, on lui répond non et non. Et quant à l'intrigante, on la met à la porte. Elle avait 23 ans. Vous jugez qu'elle n'en était pas à son coup d'essai. Mon oncle Jules ne fait ni une ni deux. Il sort de la maison avec éclat, il joue de la sommation respectueuse et épouse la gouvernante. On lui avait, bien entendu, coupé les vivres, supprimé sa pension. Mon père m'a souvent raconté qu'il était allé le supplier, leur mère aussi. Rien n'y avait fait. L'obstiné s'était mis, pour gagner un peu d'argent, à donner des leçons de dessin. Un corsieux courant le cachet, voyez-vous cela? Et en 1840, au moment où mon grand-père venait d'être nommé pair de France par le roi Louis-Philippe. Il arriva que sur ces entrefaites, nous héritâmes de cette terre d'Irlande. On ne savait trop qu'en faire. Le général l'offrit en dot à mon oncle, à condition qu'il s'engageât à quitter la France sur le champ. Mon oncle accepta. Je dois lui rendre une justice. Il a tenu sa parole. Il l'a même trop bien tenue, car il n'a plus jamais répondu à aucune des lettres qui lui ont été écrites, ni à la mort de son père, ni à celle de sa mère, ni au mariage de son frère et de sa sœur. Il faut croire qu'il avait été blessé trop profondément. C'était bien naturel pourtant que le général ne fût pas très flatté d'avoir pour bru une institutrice, ni mon pauvre père et ma tante très satisfaits d'appeler du nom de sœur une personne qui avait été domestique à notre service. Qu'a fait mon oncle à Neptuneval? Comment y a-t-il vécu? A-t-il été heureux ou malheureux de cet absurde mariage? Nous n'en avons jamais rien su, sinon que sa femme et lui n'avaient pas eu d'enfant, et qu'ils sont morts à 8 jours de distance en mai dernier, lui à 69 ans, elle à 68. Nous ne comptions, comme bien vous pensez, sur rien. En effet, ils avaient placé ce qu'ils possédaient en rente viagère. Ce n'était pas grand-chose. Le général n'était pas très riche et il avait pris toutes les mesures pour déshériter de son mieux le fils rebelle. Il restait la terre qui se trouvait nous revenir. Mon oncle n'a sans doute pas cru mourir si vite et il n'avait pas fait de testament. Ma tante Lautrec m'a cédé sa part à titre gracieux. Voilà toute l'histoire qui fait s'extasier Germaine. Elle y devine un grand caractère, un grand amour, un grand bonheur. Moi, j'y aperçois une grande sottise de la part de mon oncle. Et pour nous,
un grand ennui d'avoir à nous débarrasser de ce Neptune et Val. Dans un pays où les paysans ont, paraît-il, la jolie habitude de canarder ou de poignarder les propriétaires.
Ne le croyez pas, interrompit vivement la petite madame de Corcieux. Il fait l'homme positif et prosaïque comme cela. Mais la vérité est qu'il pense comme moi qu'on a été bien dur pour ces pauvres amoureux dans la famille. Et d'ailleurs, nous serions des ingrats de ne pas les défendre. Il parle d'ennui. Eh bien, imaginez-vous qu'il y a un mois, à Paris, nous en étions à nous sermonner l'un l'autre pour nous empêcher de faire deux folies. Max avait une envie folle de me donner un demi-rang de perles, juste de la grosseur des miennes, qu'il avait vue rue de la Paix. Moi, j'avais une envie folle qu'il se donnât une paire de chevaux russes que Casal cherche à vendre. Et nous allions y renoncer tous deux, par raison, quand il nous arrive d'un monsieur Crawford, qui habite tout près de Neptune et Val, une offre ferme de nous acheter 3 000 livres, 75 000 francs comptant, cette terre dont nous nous demandions ce que nous allions bien en faire. 75 000 francs, c'est les chevaux et c'est les perles, et par-dessus le marché, notre bourse de jeu pour Monte-Carlo, tout cet hiver que nous devons passer à Cannes. Je dis à Max, il n'y a pas à hésiter, et comme on ne fait bien ses affaires que soi-même, allons-y, ça nous sera une occasion d'un shopping à Londres. Et nous voici. Demain à 4 heures, nous serons à Neptune et Val. Le temps de conclure l'affaire, de voir s'il n'y a pas quelques papiers de famille à reprendre, et nous repartons. Je ne me ferai pas vieille dans ce pays. Ah, ça, non, non. Mais j'y pense, reprit le petit de Corcieux, qui avait observé avec quel visible intérêt je suivais cette fantastique histoire de son bisaïeul et de son oncle. Si vous veniez avec nous jusque-là, on part à 9 heures. On arrive à une station qui s'appelle quelque chose comme Oran-Mort. Là, l'ancien cocher de mon oncle nous attend avec une voiture. Il y a 10 000 milles, pas plus. Je ne sais pas ce que ça fait en kilomètres, mais ça ne doit pas être plus de 15 ou 20. Il paraît que la maison est grande, et le maître d'hôtel, un certain John Corrigan, me paraît plutôt intelligent, d'après ses lettres. Est-ce dit ?
Laissez-moi le temps de réfléchir, répondis-je en riant. Vous allez, il me faut au moins me rendre compte si ce crochet pourra se raccorder au reste de mon voyage. C'est sur la baie de Galway, me dites-vous ? Mais de quel côté ? De celui-ci ou de l'autre ?
Comme ça nous ressemble, fit la jeune femme gaiement. Ni lui ni moi n'avons pensé à regarder la carte.
Nous n'en avons pas besoin, dit Maxime, puisque Corrigan nous a envoyé l'heure exacte du train et le nom de la station. D'ailleurs, il y a des indicateurs, et je n'ai jamais su rien trouver dans un atlas.
2. Je la regardais, moi, avec grand soin, cette carte que mes deux compatriotes avaient si gentiment dédaignée, d'un dédain qui aurait dû me faire sourire. Hélas, voici longtemps que je ne souris plus de rencontrer chez nous, du petit au grand, la nationale infirmité de l'éternel, à peu près, cette marque assurée des décadences. Je constatais que le détour ne m'empêcherait pas de gagner ensuite, par Limerick, Killarney et le Kerry, où je comptais faire un séjour. Et le lendemain matin, je montais dans l'express de Galway avec monsieur et madame de Corcieux, pour en descendre vers les 2 heures à la station d'Oran-Mort, après un trajet totalement dépourvu d'incidents. La portion centrale de l'Irlande que cette ligne traverse est une vaste plaine semée de tourbières, avec quelques châteaux ruinés de place en place, et sans autre pittoresque que la profondeur de sa verdure. La causerie de mes deux compagnons n'était pas pour corriger la monotonie du paysage. Pourtant, je n'étais pas arrivé au terme de ce court voyage sans avoir du moins acquis pour eux plus d'estime. Ce tout récent ménage avait bien quelques-uns des défauts habituels à leur classe et à leur milieu. Ils étaient légers, superficiels,
Leur moindre phrase révélait une existence absurdement dispersée dans les plus médiocres plaisirs d'une société où les honnêtes femmes s'amusent comme des cocottes et les hommes comme des palefreniers. Cela dit, Maxime et Germaine avaient une qualité qui, pour moi, sera toujours irrésistible. Ils étaient simples et ils étaient bons. Il y avait en eux beaucoup de naïveté, beaucoup de jeunesse, et surtout, ils s'aimaient. Tous deux avaient été visiblement très mal élevés dans un monde très gâté. Une certaine droiture native voulait que ni l'un ni l'autre ne s'y fussent défloré le cœur. J'étais sûre, par exemple, que Maxime ne soupçonnait rien de la terrible réputation de sa mère. Et quant à Germaine, on n'avait qu'à regarder ses yeux bleus quand il se fixait sur Max pour comprendre qu'elle s'était vraiment mariée comme une honnête fille, en donnant tout son cœur et pour toujours. Dans cette intime et profonde cordialité qui les unissait, ces deux aimables oiselets, si sévèrement qualifiés par ma misanthropie la veille, étaient encore bien français, de ce pays où les ménages, quand ils sont bons, sont excellents. Et ce ménage-ci s'annonçait tellement comme devant appartenir à cette dernière catégorie qu'après être parti de Dublin, avec une affreuse appréhension de leur compagnie, je n'aurais pas regretté le voyage à cause de cette compagnie, si même Neptuneval eût dû désappointer ma curiosité. Il était écrit que pour une fois, mon attente d'impression nouvelle serait égalée et dépassée. La voiture annoncée nous attendait à Oranmore. C'était un car escorté d'une wagonnette destinée à porter les bagages. Les deux conducteurs étaient l'un et l'autre en grand deuil. Ils avaient tous deux aussi, dans l'expression de leur physionomie, quelque chose de farouche, comme de révolté, qui frappa même Maxime. Il me le dit en français quand nous fûmes assis sur la banquette, dos à dos, lui à côté de sa femme, moi à côté du cocher. « Ça débute bien notre arrivée. Avez-vous vu la mine de ces deux gaillards? À combien de ligues croyez-vous qu'ils soient affiliés ?»«
Pour celui-ci, je gagerai à aucune, » répondis-je après avoir examiné mon voisin. « C'est un homme qui fait trop bien ce qu'il fait pour être révolutionnaire. Voyez comme il conduit, si posément, si finement aussi, et comme il est propre. » Ses habits, son chapeau, son linge, ses mains. Pourquoi lui et son camarade nous ont-ils regardés alors de ce mauvais regard ? Insista Corcieux. Ce sont peut-être tout simplement des serviteurs qui aimaient beaucoup leur maître, dit la jeune femme, et qui ne sont pas contents d'en voir arriver de nouveau. Nous saurons si Marie et Julien se seront entendus avec celui à qui nous les avons confiés avec nos bagages. Mais c'est vrai que le nôtre, à bien le regarder, a réellement l'air d'un honnête sauvage. J'oubliais de mentionner que les deux amoureux avaient jugé à propos de se faire accompagner, dans leur voyage à travers cette rude contrée, par une camériste et un valet de chambre très correct. Deux parodies de leur maître, par la tenue et les manières, et dont la mine avait été impayable en regardant le chariot sur lequel il devait cheminer afin de surveiller les 6 malles. 6 malles pour 8 jours d'absence, et dans le fond du comté de Galway. Certes, ni la minaudière Marie ni l'élégant Julien ne devaient en ce moment regarder leur conducteur d'un œil beaucoup plus rassuré que leur maître ne faisait le nôtre, qu'il interpella tout d'un coup avec une singulière brusquerie. « Comment vous appelez-vous, cocher ?»«
Paddy Corrigan, votre honneur, » répondit l'homme. « Vous êtes parent du butler, alors ?» demanda Maxime en se servant de l'expression anglaise que traduit notre « maître d'hôtel », aussi exactement que le permet la différence des domesticités dans les deux pays. Puis, voyant que l'Irlandais le regardait sans avoir l'air de le comprendre, il insista. « Mais oui, du butler, de John Corrigan, enfin, celui qui m'a écrit. »« John Corrigan ?» répéta le cocher. « C'est mon père. »«
Pour
pourquoi faisait-il semblant de ne pas savoir de qui je voulais parler ? Dit Maxime en français. Et se tournant vers sa femme, « Vous allez voir que ces excellents serviteurs sont tout bonnement des socialistes, humiliés d'être appelés domestiques. Ce sera comme à New York, où l'on n'a, paraît-il, que des Z. » Puis s'adressant de nouveau à l'homme, « Depuis combien de temps étiez-vous au service de mon oncle ? » demanda-t-il. « Depuis toujours, votre honneur, » répondit Paddy. « Je suis né dans la maison. » « Et votre père ?» interrogea Germaine, qui eut un malicieux regard vers son mari, comme pour lui dire « Eh bien, c'est moi qui avais deviné juste !»« Mon père est né aussi à Neptunéval, il y a 64 ans, du temps du vieux comte, avant le comte Jules, milady, et ce vieux garçon aussi est né à Neptunéval, » continua-t-il, en caressant du fouet son cheval. Il y a 18 ans, n'est-ce pas, Billy ? Billy dressa ses oreilles. Il comprenait que Paddy parlait de lui, et il enleva le car d'un trot plus leste, afin de bien affirmer que, malgré son âge, une bête née à Neptunéval n'avait peur ni d'une côte ni du poids de 4 voyageurs. Et Paddy constata cet effort du brave animal avec orgueil en disant « On ne lui donnerait jamais 18 ans ». Non plus qu'à mon père, c'est 64. Les bonnes gens nous ont toujours protégés, » conclut-il en insistant d'une façon singulière sur ces mots « the good people ». « Ma foi, je commence à croire que vous avez raison, » dit le petit de Corcieux à sa femme, gaiement et piteusement tout ensemble. Et que mon original, donc, a eu cette excentricité par-dessus les autres de connaître ce que nous ne connaîtrons jamais, les vieux serviteurs des romans. Il y en a comme cela, si je me rappelle bien, dans Walter Scott. The good people. Ça ne se trouve plus qu'ici, des cochers qui parlent avec cette vénération de leur maître mort. Il resterait à savoir si Paddy parle réellement de ses maîtres. L'interrompis-je. J'ai lu ces jours derniers que les paysans d'Irlande appellent les fées les bonnes gens pour se les rendre favorables par cette flatterie. D'ailleurs, rien de plus facile à vérifier. Dites-moi, monsieur Corrigan, demandai-je au jeune cocher, vous avez parlé des good people. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui croient aux fées dans le pays ? Tous ceux qui en ont rencontré, votre honneur. Me répondit le jeune homme en me lançant ce singulier regard, semblable sous toutes les latitudes, du paysan qui redoute et méprise à la fois l'ironie de l'homme qu'il sait plus instruit. Il y avait dans son accent tant de certitude que je m'abstins de continuer cet interrogatoire. Je ne doutais pas que de lui-même il ne nous racontât presque aussitôt quelque histoire, dont le héros fut un des innombrables esprits du folklore irlandais. Je me trouvais, par le hasard de cette lecture toute récente, savoir les noms de quelques-uns de ces démons populaires. Le lépricon, qui chemine chaussé d'un seul soulier, le cluricon, le dévaliseur des caves, le gonconner, ou le parleur d'amour, l'enjôleur des bergères, le dulaon, ou le fantôme sans tête, et d'autres encore. Je me mis à les dénombrer à mes compagnons, en leur détaillant ce que je savais des exploits de ces funestes ou bienfaisants esprits. Vraiment, le paysage où nous nous engagions était fait pour expliquer, pour justifier ces fantastiques imaginations par son caractère d'étrangeté sauvage et de poésie mélancolique. La route courait maintenant, solitaire, dans une lande presque entièrement dépouillée d'arbres et encombrée, semée, écrasée d'une si prodigieuse quantité d'énormes pierres que toute la contrée en était engrisaillée. Pour disputer un peu de sol utilisable à ce déluge calcaire, les paysans avaient multiplié les murs, si l'on peut donner ce nom à de longues lignes de roches mises les unes sur les autres, sans ciment, de sorte qu'à travers les interstices, le ciel s'apercevait sans cesse, un ciel voilé, très bas, d'une nuance grise comme les pierres. Et la baie de Galway étalait à l'horizon une eau de la même nuance, sur laquelle glissaient des barques à voiles brunes. Cette triste nature, toute en teintes neutres et mortes, n'avait pour l'animer que des bestiaux en train de paître l'herbe rare dans les enclos fermés par ces farouches murailles. Aucun berger ne les gardait. Une entrave de cordes ou de paille tressée liait un de leurs pieds de derrière à un de leurs pieds de devant. Nous voyons, à notre passage, ici des moutons, plus loin des chèvres, là un cheval, enchaînés de la sorte, se sauver d'une extrémité à l'autre du pâturage avec une claudication presque douloureuse. Des vols de mouettes blanches passaient, en jetant cet appel des oiseaux de mer, qui ressemble, avec une identité sinistre, à un cri plaintif d'enfant. Des corbeaux de la grande espèce, de ceux qui portent le tragique sobriquet de « corbeaux des batailles », sautelaient sur ces maigres prairies, et la désolation s'accroissait encore de la quantité de chaumières ruinées qui se dressaient le long de la route. On apercevait les quatre murs, et à la place où l'âtre avait flambé, une trace de suie noire, dernier reste du feu autour duquel, par les soirs d'automne et d'hiver, les paysans, aujourd'hui partis, avaient causé des bonnes gens, qu'ils appellent aussi « the gentry », la noblesse, ou « the army », l'armée. C'était comme si un ensorcellement eût pesé sur cette Irlande pétrée, très différente de l'Irlande verte que nous venions de traverser. On comprenait si bien qu'aux heures troubles du soir, le brouillard venu de cette mer monstrueuse, en se déchiquetant sur ses rochers stériles, en traînant sur ses herbes pauvres, en s'effilochant à ses ruines nues, prit au regard d'un des haillonneux passants, aux yeux de bête, comme nous en rencontrions de temps à autre, des aspects de forme vivante, l'apparence d'un être de l'autre monde. Le rapport entre ce décor de nature et ses légendes était si évident que mes deux compagnons le sentaient eux-mêmes, surtout la jeune femme, qui eut bientôt fait, en me posant question sur question, d'épuiser ma chétive érudition. Mais comme je lui avais mentionné entre diverses autres fées la Banshee, l'espèce de dame blanche qui apparaît dans certaines maisons quand une mort va s'y produire, elle s'adressa tout d'un coup à Paddy Corrigan directement et elle lui demanda « Est-ce que l'on a raconté que la Banshee est venue quand notre oncle est mort ?»« On ne l'a pas raconté, Milady, » répondit Paddy. Et après un silence, « Quelqu'un l'a entendu, comme je vous entends. »«
Quelqu'un de la maison ?» répéta Madame de Corcieux.
« Oui, Milady, » reprit l'homme, « ma tante Harriet. » Et deux fois. La première fois, c'était la nuit où la comtesse est morte. La comtesse n'était pas malade. Elle était sortie avec moi dans la journée, sur ce car. Vers 10 heures, comme on venait de se coucher, un cri réveille ma tante. Elle se dit « C'est une chauve-souris ». Elle est allée ouvrir la fenêtre. Pas plus de chauve-souris que maintenant. Elle s'est recouchée. L'oiseau se sera envolé, pensa-t-elle pour se rassurer. Et voilà qu'elle entendit un second cri. Cette fois, elle se dit « C'est la Banshee ». Eh bien, cette même nuit, la comtesse se réveilla et réveilla le comte. Elle lui dit « Je ne sais pas ce que j'ai ». Elle lui prit la main et la mit sur son cœur en poussant un grand cri. Elle était morte. Le comte est tout de suite tombé bien malade. Il y avait 40 ans qu'il ne s'était jamais quitté. Nous avons vu tout de suite qu'il ne durerait pas longtemps. Nous ne nous attendions pas que ce fût si vite. 7 jours après l'enterrement, à 11 heures, cette fois, nous dormions, ma femme et moi. La vieille Harriet vient nous appeler. « Je l'ai encore entendue !» me dit-elle. « Il faut prier le bon Dieu !» Le lendemain, le comte était mort. Vous avez eu tort de raconter à Germaine ces histoires de fées et de revenants, dit Maxime de Corcieux en me montrant de quel visage sa femme avait écouté ce récit, débité, j'en conviens, avec cet accent de conviction qui empêche le sourire. « Et moi ?» insista Maxime. « j'ai eu tort de la laisser interroger ce nigaud de cocher. Elle croit au rêve, à la double vue, vous savez, aux gens qui apparaissent devant ceux qu'ils aiment dans les moments de danger. Il ne lui manque plus que d'avoir peur de la banshee de Neptune et Val.
« Je n'ai peur de rien, » répondit la jeune femme en rougissant un peu.
« Mais vous-même, vous m'avez avoué que vous aviez eu des pressentiments, est-ce vrai? Cette vieille paysanne en aura eu un, voilà tout. Et puis ce qui me touche, c'est l'histoire de cette mort de notre tante et de notre oncle que nous ne soupçonnions pas. Ces deux vieux époux, partis presque ensemble, après ne s'être jamais quittés, cet homme qui avait tout sacrifié à cette femme et qui n'a pas pu lui survivre plus d'une semaine, cet amour qui n'a fini qu'à la mort, c'est vrai, cela m'a remué. Vous voyez bien, ajouta-t-elle avec un sourire, que j'avais raison de prétendre que ce mariage de votre oncle Jules est un joli roman. Et tous deux, sa femme et lui, ont dû être deux cœurs exquis pour s'être tant aimés d'abord, et puis pour avoir su se faire tant regretter de ceux qui les approchaient. Ce brave garçon avait des larmes dans les yeux pour nous raconter son histoire.
« N'allons pas si vite !» interrompit Maxime, qui avait repris son petit air supérieur du mari qui sait la vie. « Je ne dis pas qu'il ne regrette pas ses maîtres, mais il veut surtout que nous sachions qu'il les regrette, pour nous pousser à le garder. D'ailleurs, il a raison. » Je suis prêt à recommander au nouveau propriétaire, si celui-ci veut de lui. Dites donc, continua-t-il en interpellant Paddy en anglais, est-ce que vous connaissez Monsieur Crawford?
Oui, votre honneur, je le connais, répondit le cocher.
Et vous savez que je vais lui vendre la maison?
Oui, votre honneur, on me l'a dit.
Vous êtes-vous déjà entendu avec lui? Reprit Maxime. « Et allez-vous rester comme cocher ?»«
Jamais, votre honneur !» répondit Paddy avec une énergie singulière, et il répéta « Jamais !»«
Pourquoi cela ?» demanda Maxime un peu penaud. La vivacité de cette réponse démentait trop comiquement sa prétention de supériorité conjugale dans la connaissance du cœur humain.
« Parce que je ne l'aime pas, votre honneur !» répondit Paddy.
« Non !» continua-t-il, je ne verrai pas cet homme devenu le maître de Neptuneval.
Et que ferez-vous alors? Interrogea à son tour Madame de Corcieux.
Nous avons décidé d'aller à Stamford, Connecticut, milady, avec toute la famille.
À Stamford? Reprit la jeune femme. Est-ce loin d'ici?
Aux États-Unis d'Amérique, répondit l'Irlandais qui regarda l'horizon de la mer, sur le bord de laquelle nous roulions à présent. Ses yeux clairs semblèrent chercher une minute, par-delà l'espace, le lointain continent, asile de tant de ses compatriotes, et d'où arrivaient droit les grandes lames dont l'écume s'éparpillait à quelques mètres de nous.
« Et pourquoi avez-vous choisi Stamford ? » continua Germaine de Corcieux.
« C'est là que vont tous les gens de Galway, quand ils émigrent, » répondit Paddy.
« Mais êtes-vous sûr d'y gagner votre vie ? » demanda de nouveau Maxime.
« L'aide de Dieu est plus près que la porte, » dit sentencieusement l'Irlandais.
« Je sais soigner les chevaux, n'est-ce pas, Billy ? Mon père sait tenir les livres, il tenait tous ceux du feu compte. Ma mère sait faire la cuisine. » Elle l'a faite à Neptuneval depuis 30 ans. Ma femme est blanchisseuse et repasseuse. C'est elle qui soignait le linge à Neptuneval. Mon beau-frère, Teddy French, celui que vous avez vu à la gare, est bon charpentier, bon menuisier, bon serrurier. Il réparait tout dans la maison. Une de mes deux sœurs était lingère, et l'autre servait de femme de chambre à la comtesse. Elle sait faire une robe et un chapeau. « Il n'y a que la vieille tante Harriet qui ne faisait rien, mais elle n'ira pas loin. De voir Neptuneval comme elle le voit, c'est déjà pour elle la fin du monde. »«
Et comment ?» dit Madame de Corcieux. « Si j'ai bien compté, vous étiez, vous, votre père, votre mère, votre femme, vos deux sœurs, votre beau-frère, votre tante,
8 personnes de votre famille à Neptunéval.
Avec 6 enfants, Milady, répliqua-t-il. 3 à moi, 3 à mon beau-frère. Cela fait bien 14.
Mais, ajouta-t-il avec une simplicité qui prouvait combien il comprenait la nuance de l'étonnement éprouvé par la jeune femme,
la maison est grande. Il y a 200 acres de terre autour. Chacun trouvait bien à s'occuper.
D'ailleurs, ajouta-t-il, vous allez en juger, Milady, car nous sommes tout prêts. Tenez, c'est toi d'ardoise, derrière ces arbres.
J'ai, comme tous les vagabonds, qu'une inguérissable inquiétude intime promène sans cesse d'un gîte d'une heure à un autre gîte d'une heure, regardez plus d'un endroit dans ce vaste monde avec un nostalgique et parfois poignant regret de ne pouvoir y fixer ma destinée. Mais cette impression de l'oasis, de l'asile où conduire celle qu'on aime afin d'y vivre pour elle, auprès d'elle, uniquement et toujours, je ne me rappelle pas l'avoir jamais éprouvée plus forte et plus soudaine qu'à ce détour de route. Et devant le profil lointain de cette toiture grise que désignait le fouet de Paddy Corrigan. La lande pierreuse et désolée où nous cheminions depuis plus d'une heure venait de finir brusquement pour donner naissance à une presqu'île rattachée à la terre par une mince chaussée sur laquelle les hautes marées déferlaient sans doute à pleine lame, car on avait dû la protéger par d'énormes blocs. Cette presqu'île, comme allongée, comme étalée le long de la côte, en était séparée par un goulet, une lagune plutôt, que cette même marée couvrait et découvrait tour à tour en revenant et en se retirant. J'ai su depuis quel charme de vie ces départs et ces retours de l'eau donnaient à ce paysage, qui s'assombrissait et qui s'éclairait tour à tour, suivant que cet étroit chenal montrait à travers les branches la sombre jonchée de ces roches revêtues d'algues brunes ou bien le miroir mobile et palpitant de ces vagues où se reflétait le ciel. À cette minute de notre arrivée, la mer était presque haute et au-delà surgissait, éclos comme par magie à l'extrémité de cette lande stérile, le plus verdoyant, le plus ombragé des parcs. Un renflement de terrain du côté de l'ouest expliquait comment cette végétation puissante avait pu résister au vent terrible de l'Atlantique. À mesure que nous nous approchions de la chaussée en longeant le chenal, la lumière du soleil, qui avait enfin percé les nuages, caressait les beaux feuillages découpés des frênes, la ramure presque pourpre des grands hêtres noirs, la forte verdure des chênes, et de place en place, la masse plus claire d'un tilleul ou d'un sycomore. Des bêtes erraient sous ses branches, libres celles-là. De gigantesques moutons à tête et à pattes noires, des vaches marbrées de taches blanches et rousses, et dans des portions fermées, des chèvres velues, dont on voyait le corps agile se suspendre aux buissons des haies. C'était vraiment un horizon d'idylle, et d'une idylle entre deux déserts. Comme avait été le bonheur des deux êtres qui s'étaient tant aimés, entre l'exil et la mort, dans la maison à peine visible parmi ces beaux arbres. Par-delà l'étroite presqu'île, on distinguait la mer à nouveau, puis les montagnes de Clare, stériles et nues, sous le revêtement gris d'un déluge de pierres, semblable à celui que nous avions franchi depuis Oramor. Ainsi aperçu, dans la douce et transparente clarté de cette belle journée d'un juillet du Nord, après ce que nous savions de l'existence vécue là 40 ans par le comte Jules et sa femme, ce parc et cette demeure semblaient une apparition presque aussi fantastique qu'avait pu être l'appel de la banshee écouté par cette vieille visionnaire d'Ariette. Nous le sentîmes tous les trois, et nous gardâmes le silence qu'imposent aux plus indifférents certaines choses vraiment inexprimables de la vie. Ce ne fut qu'après la chaussée, et une fois entrés sous les ombrages du parc,
que Germaine de Corcieux traduisit tout haut ce que nous pensions. À sa manière, où il y avait encore un peu de la parisienne, factice même dans ses plus enfantines sincérités, et qui ne peut pas voir la nature sans penser à l'opéra. « Est-ce que vous n'avez pas l'idée, comme moi, dit-elle, que tout cela n'est pas vrai, que c'est un décor de théâtre qui va s'évanouir ? Tenez, la maison, d'ici, avec ses grottes et ses statues, on croirait un petit coin de Versailles. » Le car pénétrait en effet dans une allée de tilleuls, un couvert, comme on disait autrefois, taillé à la vieille manière française et où se reconnaissait le goût de l'émigré. Il y avait aussi des grottes factices en rochers garnis savamment de coquillages. Des buis soigneusement tenus dessinaient un jardin, aménagé dans le même style et où se remarquaient de ces grands beaux fuchsias, plus aucun homme, comme on n'en voit guère qu'à Valencia, et des touffes magnifiques d'œillets et de roses. Au centre, dans un bassin où la plaie remplaçait tant bien que mal l'eau de source absente, un Neptune, grossièrement taillé dans une pierre effritée, était chargé de justifier le nom de cet endroit si étrangement composite. Car un revêtement de lierre et des fenêtres en saillie donnaient à la bâtisse une apparence anglaise, tandis que les ailes allongées, les balustres en briques de deux petites terrasses et une rangée d'urnes sur le sommet du premier et unique étage rappelait notre XVIIIe siècle. Cette maison, qui avait été celle du bonheur, avait un aspect si frais à la fois et si rococo, si vénérable et si coquet, elle semblait si bien faite pour abriter également les renoncements d'une vieillesse retirée de tout et les jolis bonheurs d'un amour jeune, que le nouveau propriétaire ne put se retenir de soupirer devant ces murs verdoyants qu'il se préparait à vendre. Ma foi, si l'oncle Jules avait eu la bonne idée de me laisser ce joujou à 2 heures de Paris, en Seine-et-Marne par exemple, ou dans le Maine seulement, avec quel plaisir je le garderais !